de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. On craint que les participants sud-coréens au scout Jamboree soient touchés par la vague de chaleur. Le Japon a évacué ses citoyens du Niger. Le ministère de l'Agriculture de la République d'Indonésie prête attention à la sécurité alimentaire à Kalimantan du Sud face à El Nino. L'Université Muhammadiyah et l'Institut international de gestion des connaissances organisent une conférence internationale sur la nutrition en Malaisie. Les délégations des pays de l'ASEAN ont discuté du renforcement des capacités logistiques rurales. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le ministre de l'Intérieur de Corée du Sud a exhorté le comité d'organisation du Jamboree mondial à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants après que plus de 400 personnes ont souffert d'épuisement dû à la chaleur aux températures torrides. Le 25e Jamboree Scout mondial a commencé le 1er août dernier, coïncide avec l'annonce du niveau d'avertissement le plus élevé pour les températures extrêmes en Corée du Sud pour la première fois en 4 ans. Certaines parties de la Corée du Sud ont connu un air chaud de plus de 38 degrés Celsius cette semaine, qui a tué au moins 16 personnes selon les données officielles. Environ 43 000 scouts du monde entier ont participé au Jamboree jusqu'au 12 août. L'activité a eu lieu sur le site d'un projet massif de remise en état des plages dans la zone ouest de Buan. Le Japon parvient à évacuer 10 de ses citoyens du Niger qui est actuellement en conflit à la suite d'un coup d'état militaire contre le gouvernement élu. Le secrétaire en chef du cabinet du Japon, Hirokazu Matsuno, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que 8 citoyens japonais ont réussi à évacuer, tandis que 2 autres ont fui à Paris. L'évacuation est assistée par le gouvernement français. Il dit que certains Japonais sont toujours dans le pays, mais Tokyo continuera d'assurer leur sécurité. La France et d'autres pays évacuent également leurs citoyens du Niger, étant donné le refus du général putschiste Abdurrahman Tchiani d'intervenir dans les affaires intérieures du Niger. Le ministère indonésien de l'Agriculture accorde une grande attention à la sécurité alimentaire à la province du Kalimantan du Sud face à l'impact de El Nino. L'inspecteur général du ministère de l'Agriculture, Janes Marinka, à Banjarbaru, jeudi, a déclaré que le Kalimantan du Sud, en tant que la province nationale de l'alimentation ou de la grange à riz, doit être sauvée de la menace d'El Nino ou du phénomène qui provoque la sécheresse sur les terres agricoles. Il espère que l'appareil de contrôle interne du gouvernement et les responsables de l'application des lois participeront à la formulation des mesures stratégiques et répartir les tâches entre les gouvernements central et régional, au niveau national et régional, province et district et ville. La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Muhammadiyah Makassar a collaboré avec l'Institut international de gestion des connaissances pour organiser une conférence internationale à Kuala Lumpur, Malaisie, le 3 et 4 août 2023. Le doyen de la faculté, professeur Suryani Asad, dans sa déclaration jeudi a déclaré que la conférence avait pour thème « Nourishing Insight, Unraveling Food, Health and Lifestyle, Nutrican 2023 ». Cette conférence vise à fournir une plateforme aux chercheurs, scientifiques, nutritionnistes, diététistes, personnel médical, ainsi que des parties prenantes du monde entier pour échanger des connaissances, expériences, ainsi que les derniers résultats de recherche dans des domaines pertinents. Nutrican 2023 a réussi à attirer la participation de divers pays, entre autres Norvège, Roumanie, l'Université de Djouba et Corée du Sud. Les délégations des pays membres de l'ASEAN se sont réunies à Yogyakarta jeudi dans l'atelier régional ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area. Ils ont discuté du renforcement des capacités logistiques rurales afin de pouvoir encourager la croissance de micro, petites et moyennes entreprises dans chaque pays. L'événement a été initié par le Centre de coopération internationale du ministère de la Communication et de l'Informatique en collaboration avec le Centre d'études de planification du développement régional de l'Université Gadjah Mada. Dian Wulandari, chef de l'équipe des médias et de la communication publique du ministère de la Communication et de l'Informatique, a déclaré que les documents de l'atelier étaient en cours de préparation pour le sommet de l'ASEAN en septembre à Jakarta. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Aung San Suu Kyi écope de 6 ans de prison ». Vous êtes avec moi Audrey. Ce jeudi tard, la junte militaire de la Birmanie a accordé mardi 1er août à Aung San Suu Kyi une réduction de 6 ans de la peine de 33 ans prononcée. Le secrétaire du Conseil militaire de la Birmanie, le lieutenant général Aung Lin Dwe, cité par Antara, 2 août, a déclaré que la mesure d'accorder la clémence avait été prise pour offrir la tranquillité d'esprit et avait été prise pour des considérations humaines lors d'un moment religieux sacré. L'octroi de la clémence à Aung San Suu Kyi n'a pas été bien accueilli par beaucoup. Kim Ari, fils d'Aung San Suu Kyi, a été cité comme disant par Tempo.co 3 août que la réduction de peine de 6 ans ne veut rien dire parce que sa mère est toujours en prison. Selon lui, la junte militaire de la Birmanie essaie simplement de mieux paraître. Il a demandé au gouvernement des pays occidentaux d'augmenter la pression sur la junte militaire de la Birmanie. Outre Kim Harris, une autre personnalité qui a critiqué l'octroi de la clémence à Aung San Suu Kyi était le docteur Yang Hili, l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la Birmanie. Il a déclaré à Channel News Asia mardi 1er août que la réduction de la peine de prison de l'ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, faisait partie des efforts de la junte militaire pour gagner le soutien du peuple de la Birmanie. En dehors de cela, l'octroi de la clémence est également une tentative de la junte militaire d'amener la communauté internationale à les reconnaître comme le gouvernement légitime de la Birmanie. Par conséquent, le docteur Yang Hili a rappelé à la communauté internationale de ne pas se laisser berner par la décision de la junte militaire de la Birmanie que certains ont qualifié de pas cosmétique. Essentiellement, la communauté internationale espère qu'Aung San Suu Kyi sera libérée car cela est très important dans les efforts visant à résoudre la question complexe de la Birmanie. Un dialogue inclusif impliquant également la partie d'Aung San Suu Kyi est nécessaire pour surmonter ce problème. Cependant, si ce personnage est toujours en prison, un dialogue inclusif où toute négociation le concernant sera difficile à faire. Le pays membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, sous la présidence de l'Indonésie, travaille dur pour créer la paix en Birmanie par le biais d'un dialogue inclusif. Citant cnnindonesia.com, en juillet dernier, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a révélé que l'Indonésie avait pris 110 engagements ou démarches auprès de divers partis pour résoudre le problème de la Birmanie. En près de 7 mois, depuis que l'Indonésie est devenue présidente de l'ASEAN, les efforts pour résoudre le problème de la Birmanie se sont poursuivis à partir de réunions physiques virtuelles ou via des conversations téléphoniques. On espère que la libération d'Aung San Suu Kyi conduira à un dialogue inclusif conduit par l'ASEAN qui produira des résultats positifs pour la paix de la Birmanie. Bon, cher Jouetar, c'est tout le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lak Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Arial 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voynews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 4 août 1949, fin du premier cabinet Hatta. Le premier cabinet Hatta était le septième cabinet formé par l'Indonésie. Par ordre du président Soekarno, le 23 janvier 1948, Mohammad Hatta est devenu premier ministre avec des membres du premier cabinet Hatta, entre autres Agus Salim comme ministre des Affaires étrangères, A.A. Maramis comme ministre des Finances et Hamengkubuwono IX comme ministre de la Défense. Lorsque l'agression militaire néerlandaise de qui a été commencée par une attaque contre la capitale indonésienne à cette époque, Yogyakarta, le 19 décembre 1948, Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir et plusieurs autres personnalités ont été arrêtés. Ensuite, le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie a été formé sous la direction de Syafruddin Prawiranegara à Sumatra. Mais le premier cabinet Hatta n'a pas été dissous. Après le retour de la direction politique le 13 juillet 1949, le premier cabinet Hatta a continué son mandat jusqu'à sa révision le 4 août. Le 4 août 1961, l'anniversaire de Barack Obama. Le 4 août est un jour important pour Barack Obama, le 44e président des États-Unis. Il est né à Honolulu, Hawaï, le 4 août 1961. Il a un mélange de sang américain et kenyan. Au cours de sa carrière politique, Barack Obama a été élu au Sénat de Illinois en 1996. En 2004, il est entré au Sénat des États-Unis. Obama a prêté serment en tant que président le 20 janvier 2009. Après cela, il a été élu président des États-Unis en 2012 et a pris fin le 20 janvier 2017. Le 4 août 1992, l'Indonésie remporte sa première médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone. La première médaille d'or de l'Indonésie aux Jeux olympiques a été présentée par Susi Susanti. Elle a remporté le titre en simple féminin de badminton. Dans le match final, Susi Susanti a affronté le joueur de badminton sud-coréen Bang So-hyun. Susi a gagné avec un score de 5-11, 11-5, 11-3, et pour sa victoire, Susi Susanti a remporté une médaille d'or. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku masih ingat. Beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman. Ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran. Dan itu tak runtuhkan niatku, ujian menunggu. sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé Le ministère du Commerce a l'intention de lancer une aide alimentaire de base pour surmonter l'impact de El Nino. Le ministère du Commerce de la République d'Indonésie prévoit de lancer un programme d'aide alimentaire de base pour les personnes défavorisées d'une valeur de 8 trillions de roupies pour anticiper la longue saison sèche due à El Nino. L'aide sera lancée d'octobre jusqu'à décembre 2023. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, M. Zulkifli Hasan, après une réunion avec des producteurs de tabac à Kudus Java Sankhal, mercredi, cité par l'agence de presse Antara. Zulkifli Hasan a déclaré que pour l'instant, le stock de nourriture sur le marché est suffisant. L'inflation n'était que 3%, cependant, a-t-il admis, avec le phénomène El Nino, le prix d'un certain nombre de denrées alimentaires devrait en effet augmenter. Par conséquent, le gouvernement se prépare sérieusement pour qu'il n'y ait pas de problème avec des produits de base. Le ministre Zulkifli Hasan a ajouté que s'il s'avère que les prix de divers produits sur le marché ont augmenté de manière excessive, le gouvernement fournira une aide sous la forme de subventions au transport. Des subventions seront également accordées si le prix des produits de base, tels que le maïs, augmente également. Le phénomène El Nino est un phénomène de réchauffement des températures de surface de la mer au-dessous des conditions normales qui se produisent dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. La température est plus chaude que d'habitude, ce qui entraîne une réduction de l'air humide dans la zone environnante. L'agence de météorologie, de climatologie et de physique a déclaré que le phénomène El Nino avait eu un impact sur les longues périodes de sécheresse en raison de la réduction de précipitations et actuellement environ 63% du territoire indonésien et entrer dans la saison sèche. En conséquence directe de El Nino, et ce phénomène a le potentiel de durer jusqu'à la fin 2023. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Culturel. Vous êtes avec moi, Audrey, et je vais vous présenter le village touristique de l'île de Penyengat. Bonne écoute. Chers auditeurs, l'île de Penyengat, dans la province de l'archipel de Riau, est l'un des 75 meilleurs villages touristiques en tant que centre d'études de la culture islamique malaise mondiale dans le cadre du prix du village touristique indonésien ADWI 2023. Organisé par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie. Après avoir visité le village touristique de Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré samedi 27 juillet que l'île de Penyengat avait un rôle très important par rapport au royaume Riau, Lingga Johor Pahang, et au Riau, royaume Lingga, surtout au XVIIIe siècle. Cependant, jusqu'à présent, l'île de Penyengat est toujours une destination incontournable pour les touristes étrangers venant de Singapour en Malaisie, au Brunei Darussalam, pour explorer la culture malaise. À l'avenir, selon Sandiaga, l'île de Penyengat sera développée notamment en facilitant, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation et de la Culture, diverses interventions politiques, notamment pour devenir un centre mondial pour l'étude de la culture malaise islamique. L'île Penyengat ou Pulau Penyengat Indra Sakti, comme l'appellent les sources historiques, est une petite île située à environ 2 km de la ville de Tanjung Pinang, siège du gouvernement de la province de l'archipel de Riau. Cette île mesure 2000 mètres de long et 850 mètres de large, à environ 35 km de l'île de Batam. Cette île est accessible depuis Tanjung Pinang en utilisant un bateau à moteur, ou mieux connu sous le nom de pompon, qui prend environ 15 minutes. En tant qu'île qui était autrefois le siège du gouvernement du royaume de Riau Lingga, l'île de Penyengat conserve encore des structures, des bâtiments historiques et des tombes de dignitaires royaux dispersés autour de l'île de Penyengat. Le tourisme religieux est l'une des activités touristiques que l'on peut faire sur l'île de Penyengat. De plus, vous pourrez voyager dans le passé en visitant divers édifices patrimoniaux et en prenant des leçons pour le présent. Plusieurs reliques historiques qui sont encore préservées incluent la grande mosquée du sultan Riau, qui est faite de blancs d'œufs, les tombeaux des rois, la tombe du héros national Raja Ali Haji, le complexe Office Palace, au fort de Bukit Kursi. Bon chargé et tard, c'est tout, le magazine culturel.
Yeah. Indonesia.
Thank you.
perjalanan cinta. Lihatlah diri ini untuk kali ini, tak bisa ku miliki, ku relakan semua. Ku mohon kepadamu di kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani bagi waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani bagi waktu, jalani bersamaku.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, je vais vous présenter l'Indonésie en couleur. Et cette fois, il a l'histoire de mangeoire à poulet automatique basée sur l'IoT. Avec Maudry. Serge Littard, trois étudiants en génie électrique de l'Université Muhammadiyah Malang, UMM, ont créé une mangeoire automatique à poulet basée sur l'Internet des objets. IoT. L'un des membres de l'équipe, Saiful Amin, a expliqué qu'il existe en fait de nombreux systèmes d'alimentation automatique des poulets, mais qu'il est encore rare d'utiliser l'IoT. L'utilisation de l'IoT permet aux agriculteurs de définir plus facilement à distance des horaires d'alimentation automatique des poulets. Peut utiliser des applications mobiles ou web. L'innovation dans la fabrication de mangeoires automatiques, il a dit, a été motivée par le fait qu'il existe encore de nombreux éleveurs de poules pondeuses qui utilise la méthode manuelle d'alimentation des poulets. Cette méthode, selon lui, est inefficace et rencontrait souvent des problèmes, tant au niveau de la gestion que de la gestion de l'alimentation, qui peuvent à leur tour affecter la qualité des œufs produits. C'est fou d'ajouter que cet outil utilise également d'un écran LCD. Affichage à cristaux liquides, de sorte que les agriculteurs peuvent également régler directement leur minuterie. Lors de la fabrication de l'outil, peu d'obstacles ont été rencontrés uniquement sur le processus de condage et la conception sur l'écran LCD. Chers amis, cet outil permet de contrôler la programmation de l'alimentation des poulets qui contient environ 2000 poules pondeuses dans une cage. Dans une cage, un moteur peut être installé pour alimenter le congélateur. Ensuite, le congélateur fonctionnera pour nourrir les poulets uniformément. Ce dispositif d'alimentation automatique pour poulets basé sur l'IDO a également un prix abordable qui peut profiter aux éleveurs de poulets par rapport à l'utilisation d'employés. C'est fou, j'espère que ce dispositif d'alimentation automatique des poulets pourra être développé et commercialisé afin qu'il puisse vraiment aider à réduire le travail des éleveurs de poulets. En plus de cela, il peut également augmenter la productivité des poulets en maximisant le poids des poulets et en minimisant le niveau de stress des poulets. Bon changement d'état, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des cinq destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Hey boys, coba dengar aku. Ada yang perlu kau tahu. Ini cerita tentangku dan semua teman gadisku. Terkadang manis sekali, terkadang penuh dengan emosi. Bila datang waktunya, terkadang penuh misteri.
C'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Papouasie avec Maudry. Cher Jami, Yam Korambe Yamko contient en fait une histoire triste sur la vie du peuple papou. Dans le passé, il était souvent impliqué dans des conflits intertribaux et des guerres contre les colonialistes hollandais. La chanson qui raconte cette guerre a beaucoup de valeurs héroïques. Cette chanson décrit le chanteur qui veut être un héros pour rejoindre la guerre, se battre et se sacrifier pour la nation indonésienne. En fait, Il était également prêt à mourir pour défendre l'indépendance de la nation indonésienne des mains des envahisseurs. Bon, chers auditeurs, voici Putri Reski et Ifan Swadi vont chanter une chanson de Papouasie intitulée Yamko Rambe Yamko. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.